Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Faites Valser vos idées, l'émission qui secoue les ménages sans se prendre la tête. On commence de suite avec Max.
Bonjour tout le monde. Le sujet des interviews d'aujourd'hui, c'est la liberté d'expression. Alors, je commence par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui proclame que la libre communication des pensées et opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement. Ça, c'était au début. Quelques années plus tard, commencent les limitations, les restrictions sous la République, hein, jusqu'à l'Empire. Alors là, bon, la liberté, on oublie. Puis à nouveau la République, et là, ça recommence, et ainsi de suite. L'histoire de l'humanité, sauf pendant les périodes de guerre, c'est place à la propagande. Voilà pour la vulgarisation historique. J'ai pas que ça à faire, et puis je suis soumis à la censure de Radio Escapade, qui me traite toujours comme un esclave de l'Empire Marconique, j'ai pas le droit de dire ça, l'Empire Galactique. J'en arrive donc au moment historique qui nous concerne, l'arrivée de la radio populaire en 1950. Là, c'est simple, l'État s'arroge le droit d'être le seul propriétaire des ondes. Mais des radios périphériques contournent le monopole en émettant depuis l'étranger. Le monde de l'audiovisuel est libéré en 1981 seulement pour être à nouveau enfermé en 2009, il n'y a pas longtemps, par le biais d'une loi qui dit clairement « Retour du contrôle de l'exécutif, nomination des présidents de Radio de France et de France Télévisions par le chef de l'État ». C'est lui qui décide. Genre, si tu veux créer ta radio et que tu n'es pas d'accord avec le pouvoir en place, bah faut lui demander quand même et puis il va te répondre. Hein ? Genre, non. Pratique pour éviter les contre-pouvoirs. Suffit d'éliminer la liberté d'expression. Aïe, non, me tape pas, Radio Escapade, pitié, on peut tout dire, hein, mais pas taper. Bon, si vous voulez, je dis qu'il ne faut surtout pas lire Spinoza.
Ça parle avec Michael Jackson.
T'as l'impression de parler avec Michael Jackson. Ah, à cause de la... Parce que j'ai mis la bonnette au micro. Ils comprennent pas les auditeurs, ils nous voient pas. T'as la conscience qu'on est à la radio.
Ah bon? Ah mince, je reconnaissais sur YouTube.
Le sujet d'aujourd'hui, pardon, excuse-moi. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la liberté d'expression. Donc j'ai le droit de dire des...
Ah, t'as le droit, t'as le droit.
Méchant.
Bah ouais, c'est la liberté d'expression.
Ouais. Voilà. Ah. Alors on peut s'exprimer de plein de manières, mais là on parle surtout expression orale. Hein.
Alors expression orale, expression écrite, non, toutes les expressions, la liberté d'expression.
Vestimentaire.
Ouais. La liberté d'expression, c'est un grand sujet qui touche à la tolérance.
Non, mais en gros, t'es pour ou non? Il faut pas là, c'est bon, il y en a marre.
Dans l'idée, je suis pour, mais le problème que ça pose actuellement, c'est l'emprise sur l'espace d'expression par des groupes privés et puis par certains, pour appeler ça lobby idéologique, qui prennent beaucoup d'emprise là-dessus et qui finalement, si tu regardes en nombre de personnes qui ont ces opinions, ils sont pas si nombreux que ça, mais si tu regardes dans l'espace public la place que prennent leurs idées, c'est énorme.
Ouais, donc ils ont de l'influence, en plus, voilà. Grâce au fric en plus. Hein,
ouais. Ouais, puis ils ont que ça à foutre.
Je trouve que la liberté d'expression juste rester en France, parce que dans le monde entier après ça va être vaste. Mais qu'est-ce que t'en penses du coup? Est-ce que tu trouves qu'on est libre
en France?
Alors c'est pareil, récemment,
les Américains diraient non.
Récemment c'est compliqué parce que par exemple tu peux dire la Russie ils font des conneries, Poutine c'est un gros con, t'as le droit. Mais si tu vas chercher, si tu dis la même chose sur Netanyahou, d'un coup tu es traité d'antisémite et tu n'as plus le droit de le dire. Et ça c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs poids, plusieurs mesures. Par exemple, il y a d'autres exemples. Hein. Après il y a aussi la liberté d'expression. Est-ce que tu as le droit de dire des choses fausses? C'est une grande question.
Comme faire croire que l'ostéopathie ça marche ou des trucs comme ça. Voilà.
L'ostéo ou
l'homéo? Alors qu'il n'y a aucune preuve scientifique, par exemple. Oui. Tout ce qui n'a aucune preuve scientifique et qui marche presque officiellement. Voilà. Enfin, même, qui est tout.
Le placebo est extrêmement efficace. Ouais. Ça, il y a des preuves scientifiques de ça.
Oui, ça, j'y crois.
L'effet placebo. Moi, je vais le docteur, j'ai donné moi un placebo, ça va me soigner.
Ouais, c'est pas con.
Non, si on le sait, ça marche pas.
Ah bon?
Oui.
Mais tu sais que tu es obligé de savoir. Tu es obligé de mettre au courant le patient. Ah bon, quand tu donnes un placebo, ouais. Ah ouais. Ouais, ouais, c'est la loi. Et oui, quand tu fais des expériences, tu es obligé au niveau de la loi de dire à ton patient que tu lui donnes un placebo. Ah. Et je dis, mais c'est complètement biaisé du coup. Ah. Mais c'est un autre sujet.
Mais après, tu peux te manipuler toi-même. Tu as forcément quelque chose auquel tu crois. L'amour, tu crois en l'amour?
Bah.
Et ben, tu te dis que l'amour, ça guérit. Et puis voilà, c'est réglé, mon pote.
Prochain sujet, est-ce que tu crois en l'amour? Je pense que ça va être.
Si tu crois pas, je suis pas sûr que. Tu vois, il faut y croire très fort. Hein,
liberté d'expression.
Ah, Jésus, il croyait. Regarde, il a fini superstar, mort, mais superstar.
Ah ouais, Jésus superstar.
400 ans après.
Ouais. Il a toujours de l'influence.
En même temps, est-ce que...
Aujourd'hui, je pense qu'il serait sur Internet en train de délivrer le message. Hein,
il a une influence énorme encore.
Ouais, 2000 ans après. Ouais. Ah ouais.
Ce qui est marrant, ouais. Parce que ça amène au truc, à la question que Dieu. Dieu, pour moi, il n'existe pas.
Il a une grande liberté d'expression quand même, Jésus. Oui, hein, oui. Sacrée liberté d'expression, lui.
Ouais, en même temps, on l'a fait taire. Hein.
Ouais, on c'est vrai. On lui a un peu fermé sa gueule.
Quand même.
Quand même. On l'a un peu calmé, quoi.
Bah, voilà. Il n'était pas baïonné.
Non, il n'était pas baïonné. Non, mais bon, on l'a crié avec.
Bah, je sais pas, moi. Oh là là.
En même temps, et de nos jours, avec son truc, il faut croire en ma nouvelle religion, pas la religion des juifs, on l'aurait traité d'antisémite. Hein.
Ce sujet part en live total.
Comme il disait, stupéflip, baïonné, ligoté, tout ce. Ouais, bon.
Ouais. Bah, voilà. Mais donc, oui, moi, je trouve la liberté d'expression, ça touche à la tolérance. Et la grande question qui amène la question de la tolérance, c'est doit-on tolérer l'intolérance? C'est quelqu'un qui a un discours intolérant. Il devrait avoir le droit, c'est la liberté d'expression. Donc toi, tu le tolères. Mais c'est dangereux. Parce que si son discours, il prend le pas et qu'il devient le discours dominant, d'un coup, c'est intolérant. Donc toi, on tolérera plus ton avis s'il est différent.
Et ouais, mais si tu poses une limite, tu poses une censure.
Donc, mais si tu le tolères pas, t'es intolérant.
Voilà.
Et là, je trouve que c'est une question extrêmement compliquée. On touche à la philosophie.
On touche à la philosophie. Moi, j'ai aussi qu'on touche aussi au discernement.
Oui, oui,
ça touche aussi le discernement. Lisez Spinoza, la tolérance,
ça va vous rendre gauchiste, mais bon.
Mmh. Oh, on n'a dit pas de politique.
Ah merde, ouais, ouais.
Pas
y a Descartes.
De politique.
Spinoza si et Descartes.
Voilà. Descartes, tout ça, si t'as envie. Mais
si t'as Descartes,
non.
On fait une belote. Hein. Sans problème.
Ouais, on verra où ça nous mène.
Merci Flo.
Merci beaucoup.
De rien, amusez-vous bien. Ouais. Bah oui, voilà, merci. Si vous avez froid, mettez-vous le micro sur la tête, il est mimouté.
Le bonnet, comme le micro.
Ouais.
Ouais, ouais, c'est un micro à poil long.
Voilà. Ouais. Max, il fait ouais, c'est ridicule. Je fais non, c'est
ridicule. Si, c'est ridicule. C'est...
Bah, des non, fois, je mets le nez dedans, ça me réconforte.
Est-ce qu'il y a encore plus ridicule, c'est l'étiquette qui dépasse. Ça, c'est encore plus ridicule.
Oh putain, j'ai pas vu.
Ah, ouais. Non, téléphone, je suis en
train. Allez, bah bon, on te laisse alors.
Voilà.
Tout
à
fait.
Après, c'est l'heure d'acheter les actions à la bourse pour
colorer.
Ciao.
Alors, on nous sommes. Thank you.
marche et passe d'un tableau au suivant. De champs de blé ravagés, enflammés au couloir de l'asile encore. Sur votre droite, mesdames, messieurs, il marche avec une balle dans le ventre. Au soleil du midi, les champs de blé avec corbeaux, les coquelicots, tout se sent. Mais bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Personne ne voit la mort, le faucheur, la cabane noire à trait les racines. Il s'assoit sur une chaise dans l'auberge du village, un lever de lune. Le lierre cherche lumière, sera l'auteur de sa mort. Ses peintures faneront, iris, rose, coquelicots, toutes faneront. Le temps est passé. Merci de votre visite chez Vincent.
Girasol d'OSF. Je te donne droit à la parole, Jean-Michel.
Ben, tu vois, JP, ben, si j'étais Dieu, ben, je croirais pas en moi. Et si j'étais moi, ben, je me méfierais.
Jean-Michel, c'est à toi.
Ah merde, c'est vrai. Salut les loulous, t'as si gars tout le monde, ça va ou quoi?
Ouais!
Ouais, j'ai rien entendu! Eh ben aujourd'hui je vais vous parler de Stromae et plus tard dans l'émission de la série d'anthologie Arcane. Donc Stromae, Paul van Haver, né le 12 mars 1985 à Etterbeek en Belgique, auteur, compositeur, interprète, rappeur et producteur belge. Stromae se fait connaître en 2010 avec la chanson « Alors on danse » extraite de l'album « She's ». En parallèle, il crée son propre label Mozart pour assurer la production de ce premier album. Son style mêle des thèmes mélancoliques, des musiques électro-dansantes. En 2013, son deuxième album, Racine Carrée, est un succès critique majeur, commercial majeur, avec des tubes comme Papa Outé, Formidable, Tous les Mêmes, bon, tout le monde connaît. La tournée qui suit fait connaître mondialement avec plus de 200 dates dans une vingtaine de pays, regroupant 1 600 000 spectateurs environ. Donc il se tape un gros burn-out, avec d'importants problèmes de santé consécutifs à la tournée. Stromae se fait discret sur la scène musicale et médiatique de 2015-2021. Il produit et travaille en parallèle sur des projets de son label Mozart et crée une ligne de prêt-à-porter unisexe. Il fait cependant plusieurs apparitions remarquées, notamment avec des collaborations pour le single d'Orelsan La Pluie ou avec Coldplay pour Arabesque. Il fait son retour musical avec Santé en octobre 2021, puis L'Enfer en janvier 2022. Il sort son troisième album Multitude le 4 mars 2022. En 2023, le clip Papa Outé dépasse le milliard de vues avec une chanson en langue française. Et en 2024, on entend ça dans l'épisode 7 de la saison 2 d'Arcane.
T'es la meilleure chose qui m'est arrivée, mais aussi la pire chose qui m'est arrivée. Ce jour où je t'ai rencontré, j'aurais peut-être préféré que ce jour ne soit jamais arrivé. La pire des bénédictions, la plus belle des malédictions. De toi je devrais m'éloigner, mais comme dit le dicton, plutôt qu'être seul, mieux vaut être mal accompagné. Tu sais ce qu'on dit, sois près de tes amis les plus chers, mais aussi
encore plus près de tes adversaires.
Mais ma meilleure ennemie c'est toi, fuis-moi. Le pire c'est toi et moi.
Mais si tu cherches encore ma voix, oublie-moi. Le pire c'est toi et moi. Pourquoi ton prénom me blesse quand il se cache juste là dans l'espace? C'est quelle émotion, la haine ou la douceur? Quand j'entends ton prénom, je t'avais dit, ne regarde pas en arrière, le passé qui te suit te fait la guerre.
Mais ma meilleure ennemie c'est toi, fuis-moi. Le pire c'est toi et moi.
Stromae et Pomme, ma meilleure ennemie. Et maintenant, je repasse le flambeau à Max.
Je reprends le micro juste pour insister un peu. Surtout, ne lisez pas Spinoza. Les livres, c'est plus dangereux qu'on croit. Certains ne sont que mensonges et influences subversives. Moi, je vous dis la vérité. Spinoza était un pistolero mexicain très dangereux, sanguinaire et méchant. La preuve, il abattait une mouche à 30 pieds debout sur la tête sans cheval. D'où la liberté d'expression, faire mouche.
Aïe, qu'arrive !
Aïe, ouh !
Allez ! Ah, c'est lancé. Le compte à rebours est lancé, mesdames. Bonjour.
Salut Max.
C'est Radio Escapade.
Bonjour Radio Escapade, salut. Bonjour. Radio Escapade. Salut.
Merci.
Salut.
C'est la meilleure des radios et tout. On peut dire tout ce qu'on veut.
Moi j'adore Radio Escapade. Tu veux écouter une radio, tu écoutes Radio Escapade.
Et le sujet aujourd'hui, c'est la liberté d'expression.
Ouh là 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 là. C'est quoi ce mot là? Ça existe plus en France. Ils l'ont supprimé du dictionnaire.
Tout le monde est contre, évidemment.
Bien sûr, tout le monde est contre. La liberté d'expression, pourquoi faire?
Mais oui.
Hein? Non, mais en plus ça, il faudrait leur donner la parole.
Plus personne ne pourrait me censurer, tu vois. Imagine-moi si j'ai le droit de dire tout ce que je veux.
Eh bien, le 18 janvier, on fait une manifestation pour la réouverture de la maternité à Ganges. Si vous voulez venir, venez nombreux, c'est à 16h devant la clinique.
Voilà. Ok. Samedi à 16h devant la clinique, et puis après il y a un court métrage et un film qui passe à l'Arc-en-Ciel, qui ne s'appelle plus l'Arc-en-Ciel d'ailleurs, je ne sais plus, donc il va changer de nom apparemment, le cinéma à Ganges. Donc court métrage qui a été fait par, je suis pas sûre là, des étudiants en médecine ou je ne sais
des
trop quoi.
Des films sur l'avortement.
Et des films sur l'avortement. Et il y a une personne qui a été interviewée qui s'appelle Elisabeth Savarisi qui fait partie de la fondation du MLF.
mouvement libération des femmes.
Ok, donc tout ça, voilà. C'est la liberté d'expression.
Si, on, bah ouais. Dedans, quoi. Donc on est en plein dedans déjà à l'époque de Simone. Déjà à l'époque de Simone Veil, déjà il y avait un problème avec la liberté d'expression. Alors les choses.
Pas de politique, les gens là. C'est juste
pas de politique.
Voilà, on va se battre pour un truc important.
La politique, c'est nous. C'est nous la politique. C'est nous, c'est tous les jours quand tu vas acheter ton pain.
C'est un joli combat.
Quand tu vas acheter ton pain, quand tu rends service à ton voisin, c'est ça de la politique. Voilà, mon ami.
Quelque part, elle est partout, mais il faut se nuancer un peu.
Bon, hein, en tout cas, soyez libre de vous exprimer. Et n'attendez pas l'autorisation, parce que vous ne l'aurez jamais. Voilà. C'est vous qui donnez l'autorisation. À vous-même.
Et ça, c'est une belle conclusion.
Voilà. Bah, ça va bien.
Ouais.
Salut, Max.
Salut.
Ça va?
Ouais. Ouais. On fait une interview Radio Escapade, là.
Ah, ouais. Pour quel sujet maintenant.
J'ai lancé l'enregistrement après les bisous. Salut, comment tu vas et tout.
D'accord, mais moi, j'ai rien à dire. Ouais,
ouais. T'as rien à dire? Si, forcément.
Oh, bah non. Il fait beau, enrhumé.
C'est le sujet d'ailleurs.
Alors ton introduction est pas mal, parce que tu dis t'as rien à dire.
Oui. Mais rien, c'est du plein en fait. C'est
notre
du plein
sujet,
de rien.
Oui. C'est la liberté d'expression.
Ah, d'accord.
Qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que tu penses que on est libre vraiment
c'est
de s'exprimer?
C'est du théâtre ça. C'est du théâtre.
Non. Vraiment.
Est libre de s'exprimer aujourd'hui, non. Ouais. Non, à part comme ça, vite fait dans la rue, mais. Vous me faites trop rire.
Voilà, bah merci de dire ce que tu penses, tu vois, déjà ça, parce que si c'est vrai, ça veut dire que quelque part il y a une censure et que tu te mets en danger en affirmant ça. On dit pas son nom, hein. Heureusement qu'on est à Radio Escapade.
On
cachera ton visage.
Je m'en tape. Ah ouais, sur la radio, c'est intéressant.
Rassure-toi, Caro, on dira pas ton nom.
Bon, ben moi je suis pressée, alors je vais vous laisser.
Ok.
Oh non, c'est trop court. Bah alors, sinon tu fais une interview à notre place. Tiens, vas-y, allez. Hop, tu prends le micro et tu nous poses la question, s'il te plaît.
Bon, allez, comment tu t'appelles d'abord?
Je vais pas le dire, mais imagine, je dis un truc qu'il faut pas dire et tout. Parce
qu'est-ce que
tu
fais dans la vie à part faire des interviews?
Est-ce que je fais dans la vie à part faire des interviews, moi qui n'ai pas de nom? Je fais beaucoup de siestes, c'est vrai, pour récupérer de mes émotions. Parce que je suis quelqu'un je suis très sensible. Alors, toutes sortes d'émotions. Rien me rend complètement tremblant.
Hyper sensible, émotionné.
Voilà, je tremble. Et je peux être admiratif ou dans un truc comme les enfants, dans l'insouciance ou autre chose. C'est pareil. Je finis par pleurer, j'arrive plus à gérer.
Attends, je vais te faire un câlin.
C'est super la radio.
Allez. Et Mélanie.
Voilà.
Il m'a dit ton prénom. Ça s'appelle de la délation.
Ça s'appelle.
Liberté
on ne se connaît pas
alors.
On ne se connaît surtout pas. Voilà. Ben, la liberté d'expression, c'est un grand sujet et c'est un sujet tellement vaste que j'aurais même pas le temps de pouvoir m'exprimer là-dessus. Je pense qu'on en a pas assez. Je pense que ça manque. On manque de tolérance
chacun.
On manque
de temps ou on manque de liberté d'expression?
Non, on manque de liberté d'expression. En manque de liberté d'expression, et ne serait-ce que en petit comité. Parfois, on n'ose même pas dire ce que l'on pense vraiment. On essaye de d'être dans un politiquement correct, de rentrer dans un moule, dans
la peur d'être jugé,
uniformité,
la peur d'être jugé.
Ouais, un peu comme à l'école, tu sais, quand t'es en primaire et que tout d'un coup, tu
ah même en couple.
Je ne sais pas, je suis pas en couple.
Qu'est-ce qui vous empêche d'être libre de vous exprimer là dans la rue?
Mais non,
je sais pas, le patriarcat peut-être.
Mais t'es. Que des conneries. Bon, t'as dû l'interviewer, c'est horrible.
Bon, écoutez.
Tu vois la liberté d'expression.
Moi, mon homme, il m'empêche de m'exprimer.
Bon, vous faites un super, super duo théâtral en impro,
merci.
Bravo
merci.
Quoi.
Merci.
J'espère que vous aurez beaucoup de clients, voilà.
Comment qu'est-ce que tu veux dire par là?
Clients,
je ne sais pas.
Oula.
Clients qui acceptent de.
Alors ça, on va censurer.
De jouer le jeu.
J'ai eu très peur. J'ai cru qu'on allait devoir censurer. Merci beaucoup.
Bonne journée.
À toi aussi.
Allez, ciao.
Just now, I ain't no psychiatrist, ain't no doctor with degrees, but it all.
C'était Sink d'Aretha Spinoza Franklin. A black compañero, Juan Pedro, viva la libertad d'expression! Arriba!
Merci Max. C'est en 1822, dans le Jura, que Louis Pasteur voit le jour. Il sera, dans ses études, un élève appliqué, travailleur, attentif, sérieux, ambitieux, bien aidé par son père qui ne cesse de l'encourager. Cependant, même s'il est un forçat de l'étude, ses résultats scolaires ne sont pas à la hauteur, voire ils sont mauvais. À 16 ans, son père l'envoie dans une école privée, au prix d'un bon pécule, mais au bout du premier trimestre, le jeune pasteur revient chez papa, ne supportant pas l'éloignement familial. Première désillusion pour le jeune garçon qui est persuadé d'avoir lamentablement échoué et que la carrière qu'il avait envisagée est terminée avant même d'avoir commencé. Résigné, il s'essaie au domaine artistique, dessin, peinture, mais sans conviction. Son père, comme il a toujours fait, flatte son ego et lui insuffle l'ambition qui lui manque. Il passe le bac littéraire, mais le sésame pour réussir, c'est le précurseur du bac scientifique. Et l'année suivante, sûr de sa réussite, il s'inscrit. Il écrit à ses sœurs que plus le bac approche, plus il le trouve facile. Il ne devrait donc n'en faire qu'une bouchée de pain. Patatras, la bouchée de pain était trop grosse et le bac, il va le louper. Il recommence l'année suivante et il va l'avoir de justesse avec une mention médiocre en chimie. C'est embêtant car chimiste, c'est le métier qu'il exercera plus tard. Mais Pasteur connaît les ingrédients de la gloire et de la réussite. C'est le travail et la volonté, comme son père n'a jamais cessé de lui dire. L'homme se révélera être un très bon chercheur, mais il sera détestable sur un plan humain. Colérique, prétentieux, austère, autoritaire et surtout très conformiste. Voilà une bonne partie de ses principaux défauts. Chien de garde du système et des théories bien établies de son époque, ce n'était donc pas avec lui que vous auriez renversé la table. En 1857, il sera nommé directeur de l'école normale et il se comportera en véritable petit tyran, gardien des valeurs morales. D'ailleurs, il s'en prendra vertement à un élève nouvellement protestant. Pasteur, qui est fils de militaire, exige une soumission absolue. Dans cette même école, un midi, l'on sert un ragoût de mouton immonde, à tel point que les élèves refusent de s'alimenter, craignant d'être malades. En punition, Pasteur fera resservir la mixture infâme le lendemain et en plus il interdira le tabac dans l'école, avec renvoi immédiat pour les rebelles. C'est le double effet qui se coule. Soumission absolue qu'on vous dit. Mais ça ne passe pas dans l'école. L'immense majorité des élèves se retire alors. Et Pasteur, têtu comme une mule, ne cède pas, le conflit s'éternise jusqu'à ce que le ministre le force à infléchir sa position. Oui, Pasteur est fort avec les faibles, mais faible avec les forts. Autre caractéristique de sa personnalité, comme tout bon chercheur, il s'inspire pour ses propres découvertes, de découvertes qui ont été faites avant lui par d'autres et sur lesquelles il s'appuie. Il est normal, dans ce cas-là, alors de citer tous ceux qui ont contribué à son propre succès. Mais ça n'existe pas pour Pasteur qui ne cite personne, excepté lui-même. Alors ça, c'était pour décrire le personnage, mais sur le plan scientifique, il regorge tout de même de qualités qui lui feront découvrir plusieurs domaines, comme l'un des plus connus, la pasteurisation. Cependant, après avoir réalisé un certain nombre d'expériences, le ministère de l'Agriculture le mandate pour régler une épidémie de fièvre charbonneuse qui décime le bétail. En 1878, il se rend près de Chartres, en Eure-et-Loir, où la maladie fait des ravages. Et il va arroser la terre d'une mixture toxique qu'il aura préalablement préparée et qui devrait décimer tout un troupeau. Vient l'heure du repas pour le bétail qui se régale et surtout qui ne meurt pas du tout. Alors intrigué, il examine la végétation d'un terrain sur lequel le bétail trépasse et il constate qu'il y a des plantes, des herbes revêches, caché dans la luzerne qui crée des blessures aux animaux, et que c'est dans ce cas-là uniquement que le bétail meurt. Autrement dit, vous pouvez asperger la végétation de virus, la maladie ne prend pas, sauf si les animaux se blessent en mangeant. Mais cette découverte intéressante n'explique pas tout. Il y a un autre élément étrange. Imaginez deux parcelles de terre qui se jouxtent. Sur l'une, le bétail meurt, sur l'autre, il ne meurt pas. Alors il cherche. Et il constate que la couleur de la terre n'est pas la même. Elle est plus sombre sur les terrains où les animaux meurent. Il interroge alors les paysans qui lui apprennent que ces endroits où la terre est sombre, ce sont les endroits où les animaux qui sont morts sont enterrés. Et voilà, le mystère est résolu. Les vers décomposent les cadavres du bétail, ils font remonter les germes mortels à la surface de la terre et avec la pluie et le labourage, ça se répand partout sur la terre et la végétation. Mystère résolu, ordre est donné aux paysans de ne plus faire pâturer leurs bêtes sur des terrains cimetières et le bétail ne meurt plus. Un peu plus tard et après la mort de trois de ses enfants, Pasteur se lance tête baissée dans la création de vaccins. Alors vaccin miracle, c'est ce que nous allons voir. En 1881, il va accepter de participer à un défi. 50 moutons vont faire l'objet de l'expérience. La moitié sera vaccinée avec 3 doses durant 3 semaines. L'autre moitié ne sera pas vaccinée. Mais tous vont recevoir la fièvre charbonneuse. Et le résultat, c'est un score stalinien absolument inédit dans le monde entier à nos jours, puisque tous les vaccinés ont survécu alors que les vaccinés sont morts. Alors que les non-vaccinés sont morts. Allez, je suis sûr que ça vous rappelle un truc. Un score pareil, bien sûr, ça paraît suspect. Ainsi, en Russie et en Italie, on fait pareil en suivant le protocole de Pasteur, et bizarrement, le résultat est différent, puisque l'on compte des morts et des survivants dans les deux camps. La presse étrangère commence à douter et trouve ça bizarre. Mais qu'importe la suspicion, on vaccine en France à tour de bras des milliers d'animaux dans la joie et dans la bonne humeur. La mortalité chute de 90%, et Pasteur fait un communiqué dans la presse sur cette vaccination, mais il oubliera de préciser que les paysans appliquaient déjà tous ses propres consignes sur les terrains cimetières, ce qui réduisait déjà considérablement la mortalité. Alors vient pour lui de passer à l'espèce humaine et à la rage. Il faut savoir déjà que 10% des cas de morsure par des chiens porteurs de la rage s'avère mortel. Le reste est éliminé par la fièvre qui mettra le virus à la porte. Les médecins de son époque, notamment un médecin qui s'appelle Michel Peter, précisera qu'il n'a vu que 2 cas de rage en 30 ans de pratique et que c'est à peu près pareil pour ses collègues des hôpitaux. Donc c'est extrêmement rare. Mais pour la création des vaccins, il faut avoir un virus atténué. Donc Pasteur va transmettre de la moelle de chien enragé à des lapins, à des singes, à d'autres chiens. Ça dure des mois et c'est un échec total. Il n'arrive pas à transmettre la maladie aux cobayes qui ne passent pas la barrière immunitaire. Un médecin qui travaille avec lui, Émile Roux, va inventer un système qui permettra la création de vaccins que Pasteur va lui voler sans scrupule. Alors vous vous en doutez, Roux sera extrêmement fâché. Une fois ce vaccin réalisé et disponible, Louis Pasteur s'en sert et connaît tout d'abord 2 ou 3 échecs. En 1885, on amène à Pasteur un petit garçon de 9 ans mordu par un chien. Il va lui faire injecter plusieurs doses, une tous les jours, avec de la moelle de lapin de plus en plus fraîche. Et les 2 dernières, qui sont très très récentes, n'ont pas de vertu curative. Elles sont juste une tentative d'inoculer la rage au garçon pour démontrer que le vaccin fonctionne. Alors vous allez me dire, mais pourquoi inoculer la rage à un enfant qui l'a déjà ? Eh bien parce que, pour lui comme pour les autres, les tests pour savoir si l'enfant était contaminé n'ont pas été faits. Le garçon est allemand et la presse du pays va faire passer Pasteur pour un monstre qui se livre à une expérience médicale sur un gamin. Les injections s'enchaînent pour la plupart avec succès. En seulement 1 an, on en est déjà à 80 personnes qui sont vaccinées et qui ont soi-disant la rage. Le docteur Peter, encore lui, redit que les cas de rage sont rarissimes et que Pasteur a intérêt à faire croire que son vaccin fonctionne et pour ça, il a intérêt à augmenter le nombre de cas potentiels et à faire croire que le nombre de cas se multiplie. Sur les 80 personnes qui ont été vaccinées, en réalité, 5 pourraient avoir été contaminées. Mais il y a déjà 3 décès. Donc au final, le vaccin aurait sauvé 2 personnes. Sauf que les tests sur les lapins ne sont pas faits. Et par conséquent, on ne sait pas si ces gens-là avaient véritablement la rage. Il va recevoir aussi 4 enfants américains et 16 russes, des adultes. Il va en sauver 20 sur 23. C'est un énorme succès. mais comme les tests ne sont pas faits, on ne sait pas s'ils avaient la rage. La presse française et étrangère font leur œuvre, et dès que quelqu'un est mordu par un chien, il se croit enragé. La psychose s'empare du peuple en France et en Europe, et gagne du terrain partout. Bref, du temps de Pasteur, on trouve 5 fois plus de cas de rage en 12 mois que dans toutes les années précédentes. C'est un peu bizarre. Et le doute s'immisce chez une partie des scientifiques, qui le traitent de manipulateur, de menteur, voire d'assassin pour les plus virulents. Et puis le dogme, la croyance font faire des choses immorales. Comme en 1886, où un jeune garçon va faire aussi l'expérience des vaccins. Il a été mordu par un chien et il repartira chez lui apparemment en bon état. Sauf que quelques jours après, le gamin va mourir et son père veut connaître la vérité. Alors une autopsie est faite. Le docteur Roux, qui était jusque-là fâché avec Pasteur, monte au créneau et exige que les tests soient faits. On injecte alors de la moelle du gamin à des lapins et on attend. Quelques semaines plus tard, les lapins meurent infectés par la rage. Le gamin est mort de la maladie et le vaccin n'a pas marché. Mais comme il ne faut pas en mettre en doute son efficacité, on va mentir à la famille et à l'Académie de médecine en prétendant que le gamin n'est pas mort de la rage et que les petits lapins cobayes étaient en pleine forme. Roux et Brouardel, c'est le médecin légiste qui a fait l'autopsie du gamin, eh bien, ils vont magouiller pour sauver l'injection et par là même la réputation de Pasteur. Rebelote quelques mois plus tard, un Anglais arrive en mauvais état et le vaccin, il est vacciné, le vaccin est fait, et le patient meurt 2 jours après. De nouveau, le scandale risque d'éclater. Il faut sauver le soldat vaccin. Par chance, on découvre que Smith est un alcoolique ivre-mort du matin au soir et que c'est la voie de sortie royale pour Louis Pasteur qui indique qu'un organisme amoindri par l'alcool, en l'occurrence, rend moins efficace le vaccin. Une observation qui rend en quelque sorte hommage à la nature et à l'immunité naturelle, ce qu'il avait déjà confirmé au moment de la mort du bétail par la fièvre charbonneuse. En écrivant au ministère de l'Agriculture, la maladie apparaît difficilement alors même que les germes abondent.
Nous sommes dans l'immense laboratoire du docteur Loulou Papasteur, de chez Trottard, secondé par son célèbre second Jumbo. Ils mettent au point un vaccin pour vaincre la connerie humaine. Ils travaillent sur ce projet depuis près de 10 ans. Mais approchons-nous et tendons une oreille furtive.
Maître, j'apporte l'infâme mixture qui faisante depuis 15 jours. Je pense qu'elle est parfaite pour l'expérience.
Bravo, Jumbo. Je suis certain que tu as faim.
Oh, maître, vous êtes grand scientifique et grand devin, maître.
Tu m'as amené les harengs à l'huile, crétin. Va chercher le pain, le fromage et le vin rouge. J'ai la dalle.
Oh oui, maître, prestement.
Après cette collation, retour à la science scientifique. Après 3 gouttes d'huile de hareng, 2 gouttes de vin rouge type Chianti, quelques gouttes de sang, de Jumbo, de l'eau, une pincée de sel, de poivre. Allez, bois ça, mon brave Jumbo.
Oui, maître. Vous avez mis du Chianti. Oh, c'est délicieux.
Mais où cours-tu, mon Jambounet? Bon. J'ai pas vaincu la connerie humaine, mais mon élixir contre la constipation est 100% efficace. C'est validé. Allez au boulot. Demain, c'est pas de boulot. On ne sait jamais ce que nous réserve la science.
Quittons ces deux éminents scientifiques qui n'hésitent pas à être cobayes de leurs propres expériences. Notez le professionnalisme dont ils ont fait preuve. C'est grâce à ces pionniers de la santé que nous sommes certains d'avancer. Vers quoi? On a du mal à le savoir, mais avancez quand même.
Yeah. cinquième as. Tout se mélange ici, les hommes et les femmes, l'alcool et les corps, des glaçons dans les flammes. Comme une vie, j'ai cherché le Graal, la jeunesse éternelle, le Botox dans les veines. J'arrête de fumer, de boire, je dis mon chaque semaine. J'ai rechuté.
C'était Le Graal interprété par Kyo et tout de suite Lana nous rappelle les fréquences.
Nous faisons toujours valser vos idées sur Radio Escapade. 104.1 à Saint-Hippolyte-du-Fort, 102.0 à La Salle, 103.3 à Ganges-le-Vigan et sur Internet dans le monde entier et tout l'univers connu. www.radioescapade.org. Escapade ! Et maintenant, nous retrouvons Jean-Michel.
Alors Arcane, c'est une série télévisée d'animation américano-française tirée de l'univers du jeu vidéo League of Legends. Alors composée de deux saisons, l'une en 2021, l'autre en 2024, elle est produite par le développeur américain Riot Games, en collaboration avec le studio d'animation français Fortiche Productions, et diffusée à l'international sur le net. En production depuis 2016 et disposant d'un budget exceptionnel, par exemple pour la série, pour la saison numéro 2, on parle de 70 millions de dollars, c'est énorme. La série a lieu dans le monde de Runeterra, l'univers fictif de Riot Games. L'intrigue se déroule plus précisément à Piltover et Zone, deux villes en conflit situées au même endroit. Piltover constituant la partie supérieure et riche de la cité. Zone, ses souterrains insalubres dont la population souffre de la pauvreté. Le scénario suit principalement Jinx et Vi, deux sœurs ayant vécu une enfance difficile à Zone, mais qui désormais adultes mènent une vie très différente l'une de l'autre, ainsi que Jace et Victor, deux scientifiques qui ont découvert et stabilisé une gemme permettant de grandes avancées technologiques. Arcane, c'est l'éternel conflit entre le bien et le mal, entre les nantis les plus pauvres, entre le pouvoir et la quête du pouvoir dans un monde cyberpunk et steampunk explosif.
I wake up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned.
On the wall, soul as you're praying for my fold, and the laughter in the holes and the names that I've been called. I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worse fit in the mind. Tell you
I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. Posted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell it my silhouette go. Ain't wanna fly on my drive to the top. I've been out of shape, thinking out of the box. I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock that caused catastrophe. And it matters more because I had it. Now I had, I thought about wreaking havoc on an opposition. Kinda shocking, they want a static with precision. I'm automatic, quarterback, I ain't talking sack and pack it. Pack it up, I don't panic, batter up. Who the baddest, it don't matter cause we is your
Everybody wants to be my enemy.
Alors, c'était Imagine Dragons avec Jid et le titre c'est Enemy. Donc c'est le titre de des génériques de début de chaque épisode de la saison 1 et 2 de Arcane. Et maintenant je passe la parole à Lydia.
Bonjour, bonjour. Alors, la liberté d'expression a-t-elle gagné depuis que Mark Zuckerberg a annoncé que Meta mettait fin à son programme de fact-checking aux États-Unis. Rappelons que Mark Zuckerberg, dans une lettre au Congrès, avait dénoncé les pressions répétées exercées par le gouvernement Biden sur ses plateformes de réseaux sociaux pour retirer des contenus liés au Covid-19 en 2021, y compris l'humour et la satire, si on peut même plus déconner en temps de crise où qu'on va. Il ajoutait que c'était une erreur d'avoir cédé au gouvernement Biden, à la grande joie des républicains qui avaient pris pour cible les réseaux sociaux et les entreprises technologiques, les accusant de supprimer ou de censurer les opinions conservatrices. Bien sûr, il n'y a pas que les conservateurs républicains qui se réjouissent de cette annonce, mais également tous ceux qui pensent qu'aucun réseau social et ou média ne devrait ajuster son contenu en raison de la pression exercée par une administration quelle qu'elle soit. Donc, pour Mark Zuckerberg, fini les fact-checkers. Simplification des règles de modération, notamment afin d'apaiser les critiques sur un supposé biais politique. Du coup, il fait comme le pote à Trump, Elon Musk sur X, anciennement Twitter, des notes de communauté. Les notes de communauté, c'est un peu les communautés de ces réseaux qui s'autorégulent. Elles permettent aux utilisateurs d'ajouter des notes sur des messages susceptibles d'être trompeurs, et cela de manière collaborative. Ensuite, les utilisateurs votent pour dire si la note est utile, informative et corroborée par des faits. Alors seulement le message mensonger ou pas disparaît. Mais on a pu en débattre, le voir et se faire sa propre opinion. Beaucoup continuent néanmoins à se désoler de l'absence de modérateurs payés par les plateformes. Peut-être qu'ils nous prennent, nous utilisateurs, pour des idiots incapables de bon sens et ou de sens critique, d'esprit critique. Même avec ces fact-checkers, nous étions soumis à de tout sur Internet. Vous croyez que la Terre est plate ? Vous vous trouverez des copains qui pensent comme vous, d'avoir été soumise volontairement. À leur point de vue, ne m'a pas fait adhérer à leur thèse. Par contre, j'ai bien rigolé. Vous dites chemtrail ou contrail ? Nous sommes gouvernés par des Illuminati, des reptiliens. D'ailleurs, vous saviez que Zuckerberg était un reptilien ou un robot. Je ne sais plus trop quelle thèse prévaut. Mais oui, on trouve toujours de tout. Les conspirationnistes ont toujours été là. Et après, c'est à nous de réfléchir, de nous faire notre idée. Qu'est-ce qu'on croit, qu'est-ce qu'on ne croit pas? Certains complotistes peuvent être des lanceurs d'alerte aussi. Vous vous rappelez quand on se foutait de la gueule des Verts? il y a 30 ans. Maintenant, on se dit, ah, peut-être que le réchauffement de la planète, on y est peut-être un peu pour quelque chose. Est-ce que la censure a empêché les complotistes d'exister, de se faire voir ou entendre durant la pandémie? Que dalle, la censure n'a fait qu'amplifier le phénomène. D'autant qu'on ne pouvait même plus dire « j'ai le Covid », par exemple, sur YouTube, le robot YouTube virait votre message plus vite que si vous incitiez quelqu'un à aller se jeter du haut d'un pont. Qu'ont fait les utilisateurs de YouTube? Ils sont partis sur Rumble, l'alternative à YouTube. Alors oui, sur Rumble, on le sait, c'est le refuge de l'extrême droite américaine. Mais vraiment pas que. Là, on peut parler sans censure. Enfin, on pouvait. Savez-vous dans quel pays Rumble est bloqué? Alors la Chine. Bon, la Chine, c'est habituel, ils bloquent tout. C'est simple. Mais en France aussi, Rumble est bloqué. Pourquoi? Parce que la France a demandé à la plateforme de virer les contenus des chaînes russes RT et Sputnik, car trop pro-russe, anti-Ukraine. Et Rumble a dit, bah, en fait non, hein, on n'obéit pas aux ordres des gouvernements, donc ces chaînes vont continuer à émettre. Ce qui est drôle, c'est qu'en Russie, aussi, Rumble est bloqué, parce qu'elle accuse la plateforme de contenu anti-russe. C'est hilarant, non? Alors, vous savez, Internet, c'est comme la grande bibliothèque d'Alexandrie. On y trouve tous les savoirs possibles et inimaginables. Vous voulez savoir pourquoi il y a peu d'orages en hiver? Posez votre question sur Google, vous aurez une réponse. Vous voulez des précisions scientifiques? Allez sur Quora, sur Reddit. On trouve tout maintenant. Nous avons aussi des applications qui vous sortent des articles de journaux en indiquant si leur point de vue est de droite, de gauche ou neutre. La question que l'on devrait se poser est pourquoi on se tourne vers les réseaux sociaux? Pourquoi n'a-t-on plus confiance dans les médias de masse? Et pourquoi on tient tellement à nous censurer? Bien sûr qu'on va lire des conneries, mais c'est vachement bien ça. Ça nous permet de débattre. Ces notes de communauté sont collaboratives et on a bien besoin de collaboration dans un monde de plus en plus divisé. Les fact-checkers ont aussi leur biais. J'ai vu des fact-checkers de l'AFP, pourtant réputés pour leur qualité journalistique, fact-checker des infos en oubliant, lol, la moitié des informations. Pas vraiment des mensonges, mais disons une information partielle. Et comme on n'est pas stupide, ça finit par se voir. Si on se tourne de plus en plus vers des sources d'informations autres que les médias mainstream, c'est qu'on a vraiment le sentiment qu'on se fout de notre gueule. Et surtout que l'on est de plus en plus infantilisé. Prenons les élections américaines. Trump allait gagner largement selon les réseaux sociaux et autres médias alternatifs, notamment les podcasts. Sur les médias mainstream, c'était hyper serré et Kamala avait des chances de l'emporter. Le problème, c'est qu'au lieu de nous donner les outils pour démêler le vrai du faux, on cherche à nous imposer ce que l'on est autorisé à lire, dire, penser et voir. Le monde a changé et Internet a changé notre façon d'appréhender les savoirs, le monde qui nous entoure. On peut en un simple clic dialoguer avec le monde entier, s'engueuler, confronter nos idées, se marrer. Nous pouvons en un rien de temps voir comment un événement tel que les élections américaines est appréhendé selon les journaux du monde entier. Et ça, ça nous oblige à penser à des points de vue différents, à voir nos propres biais. Vraiment, Internet, si on l'utilise bien, c'est formidable. La liberté d'expression est un droit, et comme tout droit, cela implique des devoirs. Sur n'importe quelle plateforme, et même aux États-Unis, l'incitation à la haine raciale, ethnique ou religieuse, l'apologie de crimes de guerre, les propos discriminatoires à raison d'orientation sexuelle ou d'un handicap, l'incitation à l'usage de produits stupéfiants, la diffamation, tout ça c'est interdit. Si vous commettez ces délits, cela peut vous entraîner en prison. Oh oui, mais mon Dieu, sans la modération, leurs petits robots qui détectent n'importe quel mot, on va voir ces messages. Ouais, mais on les a toujours vus. Et ne vous inquiétez pas, les notes de communauté se chargeront de les faire disparaître. Bah, en fait, c'est comme avant. En gros, oui, mais en mieux, ce n'est pas des fact-checkers payés par on ne sait quel état, journal ou corporation qui vous dira ce que vous pouvez lire, écrire ou voir. Et comme disait Benjamin Franklin, sans liberté de pensée, il ne peut y avoir de sagesse, ni de liberté publique sans liberté d'expression. Et n'oubliez pas, la liberté d'expression n'est jamais aussi précieuse que quand on se cogne le gros orteil contre un coin de table. Oh.
living in panic and hysteria. Poor man learn, the rich man don't care for you. Narcissist mindset spread like malaria. Sit back and watch the show, America. Britain split through fickle shit. A government of hypocrites. These counterfeit politicians sit in parliament, not adequate.
Come on.
Needlessly bleeding resources all dry. Turn a blind eye if it means a pay rise.
Oh, what a shame it would be, I would die
if number 10 Downing Street burned in a fire. Only joking, only messing, don't be stressing. I'm a peaceful adolescent, there's no need to be unpleasant. Write my thesis in a rhyme scheme to analyze the brain while my finger's on the trigger of a money game.
Oh, rain, 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 rain. A storm, it comes our way. And no surprise to distorted lies. Poison in the veins, but we die upon the blame, 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 blame. It's easier to blame. We point the mirror at ourselves. We're all part of this whole money game. This old money game.
Is a game and the ladder we climb turns a saint into a sinner with his finger in crime. I'll break it down for you motherfuckers line by line. This is business economics in a nursery rhyme. She sells seashells on a seashore, but the value of these shells will fall due to the laws of supply and demand. No one wants to buy shells because there's loads on the sand. Step one, must create a sense of scarcity. Shells will sell much better if the people think they're rare, you see. Bear with me, take as many shells as you can find and hide them on an island. Stockpile them high until they're rarer than a diamond. Step two, got them. The people think that they want them, really want them, really fucking want them. Hit them like Bronson. Influencers, product placement, featured primetime entertainment. If you haven't got a show, then you're just a fucking waste, man. Three, it's monopoly. Invest inside some property. Start a corporation, make a logo, do it properly. Shells must sell, that will be your new philosophy. Swallow all your morals, they're a poor man's quality. Four, expand, expand, expand. Clear forest, make land, fresh blood on hands. Five, why just shells? Why limit yourself? She sells seashells, sell oil as well. Six, on sell stock, sell diamonds, sell rock, sell water to a fish, sell the time to a clock. Seven, press on the gas, take your foot off the brakes, then run to be the president of the United States. Eight, big smile, make big wave, that's great. Now the truth is overrated, tell lies out the gate. Nine, polarize the people, controversy is the game. It don't matter if they hate you, if they all say your name. Ten, the world is yours, step out on the stage to a round of applause. You're a liar, cheat, a devil, a whore, and you sell seashells on the seashore.
Rain, 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 rain. A storm, it comes our way. And no surprise to distorted lies. Poison in the veins, but we die upon the blame, 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 blame. It's easier to blame. We point the mirror at ourselves. We're all part of this whole money game.
C'était Rengil Money Game partie 2. Et maintenant, je vais vous poser une petite question. Max nous a dit tout à l'heure faire mouche, mais savez-vous d'où vient l'expression?
C'est quand on, oui, essaye, bien de sûr.
On essaye de voler. Je monte sur la table, je me jette de la table, j'essaye de voler, je fais mouche.
Non.
Non, ça marche pas.
Non, non, pas du tout.
Ça n'a aucun rapport avec éternuer non plus.
Non.
Ouais, non. Les mouchoirs, tout ça.
Moucher une bougie.
Ah, c'est pas mal ça.
J'avais pas pensé.
Ah ouais, c'est pas mal.
Non, c'est pas ça.
Non, c'est pas ça du tout.
Oh.
C'était juste comme si t'en doutais.
Bah, non, oui,
non.
Carrément.
C'est juste que.
tu vois, la
je me suis dit, je vais dire une connerie.
Tu vois, les liturgiques. Ouais. Les liturgiques, quand ils mettent le petit chapeau sur la bougie pour l'éteindre, ouais. Tu souffles la bougie. Tu fais mouche.
Fubzz. Non. C'est
oh,
comme
merde.
Au 19e siècle, on tirait à l'arc, tout ça. Et en fait, plus tu recules de la cible, tu sais.
Ouais, plus elle est petite.
Bah, le centre de la cible, le milieu, tu le vois, ouais. Et on disait que ça fait la taille d'une mouche, en fait.
Oui.
C'est pour ça qu'on dit faire mouche. C'est tout aussi bête que ça. Et prendre la mouche, parce qu'on
vu qu'on est dans les mouches. Quand on dit prendre la mouche, bon, on se vexe, tout ça.
Les pêcheurs à la ligne.
Non, c'est pour dire... c'est pour dire comme si on parle des mouches, des temps, en fait, ça fait mal. Et donc, quand tu te fais piquer par un temps, t'as mal et tout. Et quand t'es vexé par des mots, ben on dit, ouais, tu prends la mouche, c'est comme si tu t'étais fait piquer par un temps tellement tu l'as mal pris, quoi. Ah ouais. Voilà.
Faut mettre des glaçons.
Ou alors amputer, peut-être.
Ou alors, oui, mais il faut
une petite amputation.
Bon, ben voilà, c'est tout. Vraie petite news. D'après Tinder, TikTok, Facebook, enfin tous les réseaux sociaux caniveaux, quand Chuck Norris fait des pompes, il n'étend pas son corps vers le haut, il repousse la terre vers le bas.
C'était Faites valser vos idées, merci à Max, Lana, Lydia, Jean-Pierre et moi-même, réalisation, Antoine et Marin. À bientôt, merci, bisous, merci.